Bonsoir et bienvenue dans Onde Noire, l'émission polar la plus rock de la bande FM.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne, bonsoir à toutes et à tous.
Aujourd'hui, nous avons décidé de vous faire voyager. Non. Non, non, nous ne rêvons pas, ne vous disons pas de bêtises. En ces temps de confinement, nous vous proposons de voyager grâce au roman, grâce au livre. Nous vous emmènerons donc au cours de cette émission, tout d'abord en Écosse, et puis en Afrique longuement, jusqu'en Afrique du Sud. Et même oui, nous irons jusqu'à vous faire un tour en Amérique du Nord, en Californie si je ne m'abuse. Et tout d'abord, évidemment, avant le voyage, on va commencer par vous parler agents de voyage. Ben oui, ceux qui vendent des livres, en ce moment, les libraires. Autour de nous, en ces mornes temps, vos libraires ont fait preuve de beaucoup de réactivité et d'inventivité. Afin d'en parler, nous avons été à la rencontre de l'une d'entre elles et on vous livre la petite interview que nous avons faite à la Pléiade à Cagnes-sur-Mer.
Bien, bonjour Aurélie, on est ravis de vous retrouver, de vous rencontrer pour cette émission spéciale voyage. Vous vous occupez de la librairie La Pléiade à Cagnes-sur-Mer. Vous n'êtes pas toute seule, on va peut-être donner le nom de vos camarades, de gens qui travaillent avec vous.
Oui, donc mon associée Virginie Platel est sur le pont avec moi en ce moment presque 24 heures sur 24. Et on a aussi Cyril qui travaille avec nous et Fabienne qui est en ce moment chez elle pendant ce confinement.
Nous avons tenu à vous rencontrer pour que nous évoquions ce problème. Les librairies sont fermées en ce moment, alors que nous, on pense que ce sont vraiment des produits essentiels, autant que d'aller acheter des tomates ou autre chose, et qu'en plus, c'est pratiquement le seul produit culturel auquel on puisse encore accéder dans ces temps. Donc, j'ai parlé dans mon introduction de l'émission que finalement, vous remplaciez un petit peu les agences de voyage pendant ce confinement, puisque voilà, les livres, ça nous fait voyager. Qu'est-ce que vous pensez de cette dénomination librairie agence de voyage?
Je suis tout à fait d'accord avec ça. D'ailleurs, les éditions Le Tripode, il y a peu de temps, ont communiqué là-dessus, ont fait une promotion de leurs livres en disant, par exemple, voyage en Islande pour 16 euros en parlant de tel roman ou d'un autre en Asie. Et c'est vrai qu'on vous offre la possibilité, tout en restant chez vous, confiné sur votre canapé, de partir à l'autre bout du monde dans des histoires extraordinaires.
Alors ça, c'est vrai en période de confinement, mais on peut quand même dire à nos auditeurs que c'est vrai toute l'année. Et quand on sera déconfiné, les livres, ça continue à nous faire voyager malgré tout. Justement, donc, la librairie est fermée, comme beaucoup de librairies dans la région. Cependant, vous avez eu plein de bonnes idées. Alors, il y a déjà le Click and Collect qui commence à être connu, mais on rappelle un petit peu le principe du Click and Collect.
Oui, alors chez nous, on appelle ça le retrait de commande.
C'est plus joli, c'est en français.
Voilà, c'est en français. Et on propose à nos lecteurs de passer commande par mail, par téléphone à la librairie ou sur le site Place des Libraires. Si on a les livres en stock, on leur met de côté, ils peuvent venir les récupérer très rapidement. Sinon, on les commande et ils sont prévenus à réception des livres. Ils viennent les récupérer à la librairie pendant les créneaux de retrait qu'on propose du lundi au samedi, de 14h à 18h30.
Alors, il y a cette idée, mais je sais que vous avez innové. Parce que on ne peut pas fouiller et trouver chaussures à notre pied en ce moment. Donc, je sais que vous avez développé d'autres idées.
Oui, en fait, pour nous, le confinement, c'est très compliqué parce qu'on adore être en contact direct avec nos lecteurs. Et on avait envie de mettre beaucoup d'énergie dans ce nouveau confinement et de joie et de bonne humeur aussi. Et on propose à nos clients qui le souhaitent de préparer des sacs surprises dans un beau sac en tissu. On leur prépare des petits paquets en fonction du budget qu'ils nous donnent et des thèmes qu'ils souhaitent rencontrer dans leur lecture, de l'âge de leurs enfants. On essaye de choisir pour chacun d'eux des gros coups de cœur qu'on a eus pour partager notre plaisir de lecture avec eux. Ça permet de garder un lien et cette dimension de conseil qu'on adore particulièrement dans notre métier.
Oui, et cette idée de conseil qui est et le contact humain, c'est ce que justement n'ont pas toutes ces plateformes qui auraient pu remplacer un jour les librairies indépendantes s'il n'y avait pas quand même beaucoup de choses et de personnes qui tenaient à leur libraire. Donc, quelques arguments pour convaincre, s'il en était besoin, de nos auditeurs qu'une librairie indépendante, ça ne sera jamais remplacé par quelque chose qu'on a derrière un écran, sans donner de nom.
Alors bien sûr, la première chose à dire, c'est le lien humain. Quand nos clients nous appellent et nous disent « je ne sais pas quoi lire », on est là pour leur poser des questions, échanger avec eux, leur proposer des choses qui peuvent leur correspondre. Et puis surtout, c'est un lien qui s'établit pour beaucoup sur plusieurs années. C'est une relation de confiance. on rentre dans l'intime avec nos lecteurs. Et ça, ça change tout par rapport au fait de cliquer sur un écran et de recevoir un message standard et un livreur épuisé et devant votre porte ensuite pour vous donner le livre.
Et puis, il y a aussi, on fait des rencontres avec les libraires, mais aussi on fait des rencontres avec des auteurs. Et je crois que vous avez eu une super idée, puisqu'on va même pouvoir faire bientôt une rencontre avec un auteur en confinement. Alors, et l'auteur et nous.
Oui, alors vous, pas vraiment, je vais vous expliquer.
Alors, je me suis trompée,
On appelle ça dédicace confinée, en fait. On a proposé à 9 auteurs qui habitent dans le coin de venir le samedi 21 novembre sur des créneaux différents. On va les installer sur des tables espacées avec tous les gestes barrières qui vont être appliqués. Et jusqu'au 21 novembre, nos lecteurs pourront réserver leurs livres par mail ou par téléphone pour se les faire dédicacer le jour J. Donc les clients ne pourront pas être là puisqu'on n'a pas le droit de les faire rentrer dans la librairie. Mais on aura pris des infos de leur part. Des dédicaces seront faites le jour J. L'artiste Sylvie T va même esquisser des portraits. Les clients les auront envoyés par photo, par mail auparavant. Et les clients viendront ensuite en retrait de commande, comme pour leur commande habituelle, récupérer leur livre dédicacé. Un bon moyen de préparer ce Noël qui s'annonce un petit peu étrange.
C'est exactement mon dernier commentaire, c'est qu'effectivement, pensez à vos cadeaux de Noël, donc avant le 21 novembre, et commandez. Donc on va rappeler les deux moyens pour vous contacter et commander des livres, s'il
donc,
vous plaît.
Par mail à l'adresse la.pléiade@wanadoo.fr ou par téléphone au 04 93 73 23 25.
Et maintenant, on va passer la parole à Virginie, puisque nous sommes une émission qui nous occupons uniquement de polar. Donc Virginie, deuxième libraire donc de la Pléiade, va venir nous parler d'un livre qu'elle a particulièrement apprécié en ce mois de novembre, ou tout au moins cet automne.
Oui, alors il est sorti il n'y a pas très longtemps, il s'appelle « Plus fort qu'elle » de Jacques Expert. Et c'est vraiment un très très bon polar qu'on ne peut pas lâcher. Il y a un mari, sa femme et sa maîtresse, forcément.
Oh, le trio infernal, voilà. Classique.
Il y a une femme de trop, mais dès le départ, on sait très bien que ça ne va pas durer longtemps. Et ensuite, ça paraît assez classique comme histoire, mais il est machiavélique et il nous entraîne dans une spirale infernale vraiment très étonnante. Et vraiment, je vous le conseille, si vous voulez rester des heures dans votre canapé à trépigner en vous disant « non, c'est pas possible », il faut lire ce livre.
Et donc, l'éditeur, on n'a pas, je crois, dit
alors,
l'éditeur.
L'éditeur, c'est chez Kalman Lévy.
Chez Kalman Lévy. Donc, Jacques Expert, plus fort qu'elle. C'est un thriller, en fait.
Ah oui, c'est un thriller. Oui, tout à fait.
C'est dans le thriller. Oui. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Virginie, Aurélie. Merci de nous avoir accordé ce peu de temps parce que vous êtes débordés. Et c'est une bonne nouvelle. On va dire que c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Et bien donc un grand merci de nouveau à Virginie et Aurélie. Elles étaient entourées de livres, il y avait des cartons de livres et des paquets de livres de partout et nous accordaient ces quelques minutes. C'était très gentil de leur part, mais évidemment dans la région et autour de Grasse, il n'y a pas qu'elles comme librairie. Je citerai la librairie Art et Livres à Plan de Grasse, aussi à Montsartou, la librairie Expression à Châteauneuf-de-Grasse, la librairie Masséna qui se trouve à Nice, à Antibes, et puis plein d'autres, il suffit.
La librairie Jean Jaurès aussi. Nice.
La librairie Jean Jaurès à Nice, mais bien sûr.
On ne va pas les citer toutes.
Cette liste n'est absolument pas exhaustive. Par contre, pour faire plaisir à Virginie et à Aurélie, elles nous ont choisi un petit morceau de musique, Jacques.
On va écouter donc un morceau écrit par M, donc Mathieu Chédid, qu'il interprète ici avec la chanteuse et guitariste Fatoumata Diawara et le joueur de kora Sidiki Diabaté. Et le morceau s'appelle Mani Toumani. Voilà, de toute façon, il va le répéter suffisamment de fois. Mani Toumani, M, Fatoumata et Sidiki.
Même ta colère, j'entends dans ta kora ton cœur qui bat, mon frère. J'entends dans ta kora toute l'humilité à la verticale dans l'immensité.
Tout
des désastres de nos biographies, au-dessus des murailles de nos fausses vies.
Voyage, vous disais-je. Je vous emmène donc, pour commencer, en Écosse, au son de la cornemuse. Plus exactement, au son du pibroch. Enfin, je ne sais pas si je prononce correctement ce mot. En fait, je sais que je ne prononce pas bien, mais ce n'est pas grave. Et je vais laisser Gérard Hall, qui est l'auteur de Scottish Lamento, le roman dont je vais vous parler maintenant, et qui est récemment paru chez Inuit Éditions, vous expliquer ce genre typiquement highlandais, comprenez, issu des Highlands, une splendide région écossaise. Extra. Le pibroch, d'après les musicologues, est la dernière trace encore vivante de la musique des temps anciens, celle qui était jouée par les harpeurs et chantée par les bardes, dans toutes les cours d'Europe, au Moyen-Âge. Imaginez, la cornemuse arrive, elle a déjà traversé les Balkans, a conquis tout le pourtour méditerranéen. Elle arrive dans les cours d'Europe de l'Ouest avec une puissance inégalée. Tout un orchestre à elle seule. La cornemuse, c'est la modernité, inspecteur. Comme un sound system qui déboulerait dans un concert de pipeau. Les harpeurs et les bardes sont furieux. Ils craignent d'être réduits au silence. Mais les pipers s'inspirent des harpeurs, des arpèges de la harpe, s'imprègnent de la poésie des bardes, se nourrissent des histoires fantastiques qui ont cours, font écho aux drames de leur temps, exaltent les plus nobles sentiments humains. Et cela donne naissance à cette musique très particulière, le Col Mort, la grande musique, autrement dit le pibroch, Mr. McIntosh, le pibroch. Alors, pour info, hein, le Col Mort, j'ai regardé la façon dont ça se prononçait sur Internet, ça s'écrit C-E-O accent L, plus loin M-O accent R, non, ne cherchez pas C-A-2-L-M-O-R-E, hein. Et d'ailleurs, je ne sais pas si ce que j'ai entendu, je l'ai bien répété, mais j'espère que les spécialistes du genre m'excuseront. Parlons donc du roman. Ce polar se passe dans l'île de Skye, là où tant de films ont été tournés. Harry Potter, par exemple. Enfin, quelques scènes de Harry Potter. Et c'est là que Charlotte MacLeod, originaire de Winnipeg, au Canada, vient sur les traces de ses ancêtres. Elle vient en touriste avec Mahmoud Oz, son compagnon, d'origine turque. C'est là qu'elle rencontre Duncan MacDonald, américain, un joueur de pibroch, ce Colmore dont je vous parlais tout à l'heure, à la tête bien dévastée. Évidemment, je parle de Duncan, je ne parle pas de la musique. Peu après, Charlotte va être retrouvée assassinée avec une drôle de mise en scène. Le lecteur va ainsi faire la connaissance de Finlay McIntosh, un flic aussi grognon que sympathique, qui lui aussi joue de la cornemuse, qui est féru de ces vieilles légendes qui hantent la langue écossaise. Il aime bien la télé, mais pas les touristes. Alors, je vous avais juste sélectionné un petit endroit, mais évidemment, je ne suis pas... Voilà, petit extrait. McIntosh aime bien la télé, c'est ce que je disais. Mais McIntosh n'aime pas les touristes. Ça chie, ça pisse partout, ça pique-nique et ça fornique. Ça laisse des papiers gras, ça envahit tout et nous, les Iliens, on trouve même plus de place dans les restos. Pff. Contrairement à ce qu'on peut croire, il est beaucoup plus sympathique que ce petit extrait. Comme il adore la télé, il a vu une série où un meurtre, ou même une série de meurtres, semble à s'y méprendre à celui de Charlotte. Il est donc persuadé qu'il tient une piste. Mais ses collègues sont beaucoup plus prosaïques. Et en fait, eux vont rechercher activement Mahmoud Oz, qui est éventuellement membre du PKK, vous savez, le parti kurde. Chacun suit, d'un côté comme de l'autre, ses instincts, ses traces. Nous voilà donc dans une histoire qui mélange habilement les histoires bien réelles et les contes ancestraux, l'histoire récente, la Turquie et les Kurdes, le Vietnam et ses vétérans, avec les guerres claniques écossaises, à commencer par l'éternelle querelle entre les MacLeod, dont Charlotte fait partie, je vous rappelle son nom, hein, Charlotte MacLeod, et puis les MacDonald. Le bard Duncan en est un descendant. Et si le massacre de Glencoe, qui est largement raconté dans ce bouquin, avait des répercussions actuelles, si jamais? Vous l'avez compris, c'est un polar à la narration originale, qui oscille constamment entre légende et histoire bien réelle, enfin histoire évidemment concoctée par l'écrivain lui-même, pour mieux nous raconter la violence qui, de tout temps, a prévalu aux rapports humains, dès qu'un pouvoir politique ou économique est en jeu. Et pour terminer, je laisse Gérard Hall, l'écrivain, nous dire le mot de la fin. Toujours en Écosse, le réel défiera l'imaginaire. Voilà, ça définit bien l'ambiance de ce roman. Donc, Scottish Lamento, aux éditions Inuit. Et pour illustrer les bardes, le pibroch, on a choisi une musique bien plus récente.
Oui, du Celtic Punk, avec un groupe qui joue donc de la musique, non, du Scottish Punk même, hein, carrément. Mais ce sont des Canadiens. Et le morceau qu'ils vont jouer pour nous, ben évidemment, s'appelle Glencoe Massacre, ou enfin le massacre de Glencoe, disons en français.
En français, c'est mieux.
Les Real Mackenzies.
Puisque Charlotte MacLeod et Duncan étaient du continent américain, je crois que nous allons y rester.
Oui, on va y rester, ou y retourner, puisqu'on était en Écosse, avec un roman de Frédéric Andrei, qui a un titre assez étrange, L'histoire de la reine des putes, et il est publié chez Albin Michel. Ce roman, c'est le troisième de Frédéric Andry, et il reprend les deux personnages principaux de ses deux premiers romans, Nicolas Denac et sa compagne maintenant, qui s'appelle Tina. Il y a quelques autres aussi personnages qui reviennent, mais on peut très bien lire ce troisième roman sans avoir lu les autres auparavant. Ceci dit, vous pourrez le lire après. Nicolas Denac, je rappelle donc, il est journaliste de formation, mais il a abandonné il y a un bon moment la presse écrite pour devenir charpentier, bricoleur professionnel en fait. Dans la petite ville, le Patelin, que dis-je, l'enclave de Sausalito, juste au bout du fameux pont Golden Gate. Je m'attarde un petit peu sur Sausalito, car en fait, c'est un des lieux principaux de l'intrigue. Sausalito, donc, c'est une petite ville faite essentiellement de houseboats, des espèces de maisons flottantes ancrées à la terre, ou même carrément des péniches ou autres vieux rafiaux aménagés en habitation. Fondée par une communauté hippie, c'est devenu petit à petit un endroit chic et cher, boboisé comme on dit maintenant. Voilà ce qu'en dit lui-même Frédéric Andry. Devant lui, plus de 200 maisons flottantes étaient amarrées en randonnion à un interminable ponton, le fameux Liberty Dock. Sur les terrasses, tout le décorum du Californian Summer était en place. Les hamacs de chanvre, les jardinières organiques, les tables familiales, les coupes vintage et les salades au quinoa. Encerclé par ces belles habitations du Liberty Dock, un petit bidonville d'une quinzaine de masures pourries, surnagé au pied du charpentier. Ce village flottant délabré par le temps, abritait la Waldo Coopérative, une communauté des années Peace and Love. Cette Waldo Coop était, selon les guides, une réserve de hippies à visiter, encore que l'entreprise soit formellement déconseillée par des touristes ayant déjà tenté l'expérience. Nicolas Denac, il est désormais père d'une petite fille avec sa compagne, la très fougueuse Tina. Tina, qui, je rappelle, est une indienne Blackfoot, qui était une ex-bimbo, une veuve d'ailleurs d'un richissime homme d'affaires, et donc du coup, richissime elle-même. Un matin, au début du roman, après leur soirée de fiançailles très agitée et alcoolisée, et même plus, Nicolas entame un boulot de routine sur les maisons du coin. Et il découvre sur l'une d'elles une belle grosse flaque de sang encore poisseux. Alors qu'il était en train de réfléchir à l'idée de marier enfin sa belle indienne, son instinct de journaliste d'investigation est soudain revigoré, un peu comme l'a fait le solo de guitare de Richie Blackmore alors qu'il prenait le café juste quelques instants auparavant. Il va donc chercher de qui provient ce sang et où est le corps. Et pourquoi il y a du sang et pourquoi il n'y a plus le corps. Cela va l'amener dans des contrées reculées de la Californie qu'il connaissait très mal, des bouts de Californie qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à ces patelins ruraux du Midwest. La San, je lis ce que nous en dit Frédéric Andry, la San Joaquin Valley est la région agricole la plus dévastée des US, la plus polluée du pays. Par qui? Par quoi? Les engrais et les pesticides, depuis qu'ils ont commencé à cultiver ici, ils ont déversé de tout dans cette foutue vallée. Il y a plus d'un siècle de merde en tout genre dans les champs. Vous n'avez jamais remarqué cette poussière verte partout? Il suffit de prendre un peu de terre et de l'effriter dans ses mains pour être couvert de cette sorte de cendre verdâtre. Allez faire un tour dans les centres médicaux et vous comprendrez pourquoi nous, on est obligés de porter des masques.
Quelle époque,
voilà. Ça se déroule en 2018, le roman. Mais là encore, le grand capital veille sur ses produits présents et futurs. Et les investigations de Denac vont en déranger plus d'un et déclencher quelques réactions violentes qui vont nuire à l'intégrité physique de l'ex-ancien de nouveau journaliste. Et comme il est question de fracturation hydraulique, de pétrole de schiste, ce brave Denac aura aussi affaire à des écolos vindicatifs et armés. Et oui, je rappelle que nous sommes aux États-Unis, donc même les écolos. En alternance, dans des chapitres en flashback, on découvre petit à petit la vie de cette reine des putes qui fait le titre du roman. Et qui va, bien sûr, venir se mêler de la vie de notre Nicolas, jusqu'à la surprise finale que, bien évidemment, je ne vous révélerai pas. Si le premier roman de Frédéric Andry était plutôt un techno-thriller, le deuxième, toujours techno-thriller, mais matinée de western avec de superbes scènes de nature writing dans le Montana. Là, même s'il garde ce côté addictif du thriller, on est dans un vrai roman noir bien poisseux. Il faut dire que l'huile de schiste s'attache. Loin d'user de facilité avec ses personnages récurrents, Nicolas et Tina, il les met dans des situations périlleuses, au risque même de les perdre. Le lecteur, lui, par contre, n'est pas en perdition, bien au contraire. Il suit avec avidité les investigations de Nicolas, mais aussi ses atermoiements concernant sa relation avec Tina. Et puis, il y a Owen, le jeune journaliste stagiaire, qui met un peu d'allant avec sa fougue juvénile et son désir de devenir un peu plus que le petit grouillot de la rédaction. Et pour ceux qui aiment ça, il y a aussi quelques surfeurs. Après tout, on est sur la côte californienne. Mais des surfeurs d'un genre spécial, vous verrez. Il y a aussi, bien sûr, quelques pistes de réflexion, disons écolo, même si le mot sonne péjoratif. Peut-on continuer indéfiniment avec la fracturation hydraulique, les pollutions des sols, pour les seuls profits de quelques-uns? Un roman de 400 pages que je vous conseille d'offrir ou de vous offrir. Il n'y a qu'à souhaiter une seule chose, c'est qu'il ne faille pas attendre 4 ans pour avoir le nouveau roman.
Comme je suppose, entre le précédent.
Voilà, le précédent date de 2016, donc on espère qu'il reprendra les aventures de Nicolas, ou pas d'ailleurs, mais bien avant 4 ans.
Un petit peu de musique pour illustrer cette Californie?
Eh bien, en fait, on va illustrer cette Californie et cette enclave de Sausalito avec une chanson d'Otis Redding qui s'appelle Sitting on the Dock of the Bay. Une chanson très connue, qu'il a écrite en 1967 sur une nappe en papier alors qu'il louait un de ses bateaux maison dans la baie de Sausalito. Son guitariste Steve Cropper a fait la musique magnifique qui l'accompagne, mais nous on va écouter la version très blues du New Yorkais Papa Chubby. Break it out now. I'll break it out now for the big O, Otis Redding.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting in the evening comes, watching the ships roll in, and I'll watch them roll away again. I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tide. Sitting on the dock of the bay, watching.
Nous allons continuer notre voyage et je vais maintenant vous parler d'un roman qui s'appelle Entre fauves. C'est le dernier livre paru de l'écrivain Colin Niel que nous évoquons souvent ici. Comme tous ses romans, celui-ci est publié par les éditions du Rouergue dans la collection Rouergue Noir. Ce roman, je dirais que c'est un roman de territoire. Et bien sûr, s'il y a territoire, il y a habitants. Qui respectent d'ailleurs ou pas ces territoires. On revient un peu au thème dont tu nous parlais avec Frédéric Andrieux.
Andrieux.
Ces habitants, ça peut être des êtres humains, des animaux, des végétaux. Une partie se déroule en Béarn, donc en territoire montagneux. L'autre en Afrique, en Namibie pour être précise, une zone désertique. En gros, des hommes face à d'autres grands prédateurs, l'ours en Pyrénées, le lion en Namibie. Comme dans Seules les bêtes, qui était un des précédents romans de Colin Niel, il donne la parole tour à tour à trois personnages principaux avec un invité très spécial. Donc quatre. Quatre voix. Tout d'abord, Martin. Martin, il est garde dans un parc national pyrénéen, farouchement anti-sage, anti-chasse, oh, c'est pas facile à dire. Dans son métier, dans la journée, il est à la recherche de Canelito. Canelito, c'est le petit de Canel, vous savez, l'ours introduit il y a quelques années et qui a été ensuite assassiné. Pendant ses loisirs, il s'occupe d'un réseau très véhément contre les chasseurs. Je le cite, « Je nous voyais comme des lanceurs d'alerte de la cause animale, qui en avait bien besoin. » Autre voix, très lointaine celle-là, en Namibie, nous allons découvrir la voix, mais aussi la vie, de Konjima, un Imba du Kaokoland. Quand on le rencontre, un lion décime le troupeau de chèvres de son père. C'est une histoire, je dirais, ancestrale, l'éternel combat entre la nature hostile et les petits villages de cette zone du Namibie. C'est donc une habitude, mais Kondidja, le jeune homme, réagit violemment. Et lui, là, il décide immédiatement d'avoir la peau du lion. Troisième voix, une femme, Apolline, à peine 20 ans. En fait, 20 ans, juste. Car pour son anniversaire, son père, assez riche, lui offre une chasse au lion, justement dans le territoire des Imba, pour accrocher un trophée de plus à son tableau de chasse déjà là. Apolline est un peu spéciale. Telle Athéna, elle poursuit ses proies avec un arc pas n'importe lequel, un arc dernière génération, j'en avais jamais entendu parler, je savais même pas que ça existait, une arme terriblement efficace et assez terrible. Et puis, je parlais d'un invité spécial, d'une voix très particulière, celle qui entame le roman d'ailleurs, c'est celle de Charles, bah, c'est tout simplement le lion. À la fois chasseur et chassé, prédateur suprême ou bien vieil être solitaire. En gros, métaphore de beaucoup d'êtres humains. Évidemment, en habile écrivain, Colin Niel va instiller dans son récit l'élément déclencheur qui va se faire télescoper tout le monde. Et cet élément, c'est une photo d'Apolline en déesse triomphante avec à ses pieds un lion agonisant. Et là, tout le monde s'affole, la chasse est lancée. Mais pour qui cette chasse? Ce roman, c'est une réflexion sur notre monde, sur les ravages que peut provoquer ce prédateur suprême qu'est l'homme, et qui, depuis très longtemps, petite parenthèse, bien avant que l'on ne parle d'anthropocène, cet être humain décimait, par exemple, déjà les troupeaux de bisons, et encore avant, il y en a eu plein d'autres. C'est une réflexion sur l'homme et la nature qui est entamée par l'écrivain français depuis bien longtemps. Si on se souvient, ses romans autour du commandant Anato qui se passait en Guyane, le long du fleuve Maroni, c'était aussi un des thèmes principaux. S'ajoute ici un parallèle très intéressant entre l'Afrique et l'Europe. Ces lions qui dévorent les troupeaux qui font vivre les Himba, eh bien c'est un peu comme les ours qui tuent quelques animaux dans les Pyrénées. Ou alors on a aussi les loups qui s'attaquent à quelques pauvres petites brebis et agneaux dans les Alpes. Mais en Europe, contrairement aux lions, empêche-t-il actuellement quelqu'un de vivre? C'est un roman très riche. Mais pour moi, il y a surtout une idée qui prédomine l'ensemble du ou des récits, puisque plusieurs voix. Cette idée, c'est l'obsession. Celle de Martin contre les chasseurs, qui le conduira carrément vers la folie. Celle d'Apolline. Elle veut son lion, son trophée, et elle est aveuglée par cette quête complètement déraisonnable. Et enfin, il y a l'obsession de Konjima, aveuglée par sa haine contre le lion, qui n'est que l'objet qui cristallise ses déceptions et ses rancœurs. De ces quêtes obsessionnelles, tous y laisseront beaucoup, voire une partie de leur vie, voire tout ou partie de leurs convictions. C'est le propre de l'écrivain, de roman noir tout du moins, de brouiller une fois pour toutes les cartes. Chasseur, chassé, poursuivant, poursuivi. Et Colin Niel maîtrise parfaitement l'exercice. Voilà, ça s'appelle Entre fauves. Le titre correspond bien à ce que je viens de vous expliquer. Colin Niel, et c'est dans la collection Rouergue Noire. Et on va aussi parler de lions dans la musique.
Eh ben oui, on va écouter. Le lion est mort ce soir, ce fameux thème...
C'était facile.
Voilà, ce fameux thème écrit par Henri Salvador. Mais en fait, on va l'écouter par un groupe qui s'appelle le Trio de Tatanophone. Et c'est un groupe de trois musiciens, comme tous les trios la plupart du temps, qui jouent avec des tatanes, en fait, des vieilles savates, sur des vibraphones ou des xylophones artisanaux. Ils appellent ça des bidulophones. Et donc, le lion est mort ce soir. Deux petites minutes délicieuses. Thank you.
ce dernier voyage, on fait un petit bond de la Namibie à
l'Afrique du Sud.
Voilà.
Avec un roman de Deon Meyer qui s'appelle La Proie, qui est traduit de l'Afrikaans par Georges Laurie et qui est publié à la Série Noire de Gallimard. Donc ce petit voyage, donc on est en Afrique du Sud, on va faire un tour dans le train le plus chic du monde, auprès duquel l'Orient Express, c'est un TER en gare de Menton-Garavan ou de Joinville-le-Pont. Mais cela a beau être un train hyper luxueux, il va y avoir un mort, un meurtre.
Ça fait un peu penser à Agatha Christie.
Tout à fait, un meurtre, peut-être un suicide, car on retrouve le cadavre que quelques jours plus tard, dans un état plus très frais.
Et putréfié par la même occasion.
Voilà. Et un vieux monsieur rondouillard, affublé d'une moustache de compétition, va venir enquêter. Eh bien non, pas du tout. C'est l'équipe de Benny Grizzle, de la brigade des Hawks, les crimes spéciaux, les flics d'élite, qui vont enquêter. Car le mort est un ancien des services secrets qui a quitté la police pour se mettre à son compte, comme consultant en sécurité pour riches. Bon, enfin, c'est pas vraiment son titre, mais en gros, c'est ça. Son décès, donc, devient extrêmement suspect. L'histoire que nous raconte Deon Meyer a aussi une partie en France, à Bordeaux, où l'on découvre Daniel Darré. Il a l'air d'un homme paisible qui travaille comme apprenti pour un vieil ébéniste. Il mène une vie retirée, mais on apprend dès le premier chapitre qu'il sait se battre et très bien. La visite d'un vieux compagnon de route du temps où il était en Afrique du Sud va bousculer son quotidien tranquille et il va devoir redevenir malgré tout Tobélan, l'ancien combattant de l'ANC. En quelques chapitres courts qui alternent entre Bordeaux en France et Belleville, faubourg du Cap en Afrique du Sud, Deon Meyer lance sa machine, un thriller politique qui s'emballe rapidement et qui ne s'arrêtera qu'à la dernière page. Les deux histoires vont bien sûr se rejoindre, les personnages se rapprocher. L'auteur rajoute à son cocktail littéraire quelques traits d'espionnage, et pour faire un peu tomber la tension dans son récit mouvementé parfois effréné, Deon Meyer raconte aussi la vie quotidienne de sa brigade, leurs problèmes de couple, leurs problèmes de hiérarchie ou les petites guéguerres de police. Mais le rythme reprend jusqu'au suspense final. Deon Meyer continue son portrait d'une Afrique du Sud post-apartheid. Le racisme est loin d'être aboli, c'est même le quotidien de certains Noirs. Mais les successeurs de Nelson Mandela ne sont hélas pas tous blancs-bleus, si j'ose la métaphore coloriste. Deon Meyer appuie là où ça fait mal à son pays. Outre le racisme donc, la corruption, les factions des mouvements de libération qui ont explosé avec le pouvoir et dont chacun revendique sa part. C'est vraiment un roman comme Deon Meyer sait les faire. On commence à la première page et on ne peut pas s'arrêter avant la fin. Et on découvre des choses sur une Afrique du Sud qu'on ne sait pas toujours dans les journaux ou les magazines qu'on lit ici. Le seul défaut de ce roman, malgré tout, parce qu'il y en a un petit, c'est sa complaisance envers la police. Certes, on peut penser que les flics sont les garants de la démocratie, mais Deon Meyer a un peu tendance à leur donner une aura qui me paraît quand même légèrement exagérée.
Voire suspecte.
Voilà, donc Deon Meyer, pour finir cette émission, Deon Meyer, La Proie, traduit par Georges Laurie à la Série Noire de Gallimard. On va écouter un petit peu de musique, car Benny Grizzle, le flic en question, donc, quand il n'enquête pas, il joue de la basse dans un groupe de rock. Et à un moment du roman, il répète ce morceau de Solomon Burke, mais dans sa version blues pop des Stones. Mais nous allons l'écouter dans une version très dépouillée et acoustique de Mark Broussard, qui est un songwriter américain, et une chanson très 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 douce. Le morceau s'appelle Cry to Me, vous connaissez sûrement.
Come on, cry to me. when you're all alone in your lonely room, and there's nothing but the smell of her perfume. Don't you feel like crying? Don't you feel like crying? Well, here I am, honey. Come on, cry to me. Oh, nothing can be said. Such a waste of time. Oh yeah, you don't ever have to walk alone. Oh, you see, come on, take my hand, baby, won't you walk with me? Oh yeah, when you're waiting for a voice to call.
Vous dit à la prochaine émission, chacun dans son coin avec un bon bouquin, chacun dans son coin en ce moment, c'est le cas de le dire. Voilà, au revoir.